Max Stirner, seconde partie, ma jouissance de moi. Nous sommes au tournant d'une époque. Le monde n'a jusqu'à présent songé qu'à conquérir la vie. Son unique souci a été de vivre. Que toute activité tende vers les choses d'ici-bas ou vers l'au-delà, vers la vie temporelle ou vers l'éternel, qu'on aspire au plein quotidien, donnez-nous notre pain quotidien, ou au pain sacré, le véritable pain du ciel, le pain de Dieu qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde, le pain de vie, Jean chapitre 6, versets 32, 33 et 48. Que l'on se préoccupe de la chère vie, ou de la vie éternelle. Le but de tout effort, l'objet de toute sollicitude, ne change pas. Dans l'un comme dans l'autre cas, ce qu'on cherche est toujours la vie. Les tendances modernes témoignent-elles d'un autre souci ? On veut que les besoins de la vie ne soient plus un tourment pour personne, et l'on enseigne d'ailleurs que l'homme doit s'occuper de ce monde-ci et vivre sa vie réelle sans vain souci de l'au-delà. Reprenons la question à un autre point de vue. Celui dont l'unique souci est de vivre ne peut guère songer à jouir de la vie. Tant que sa vie est encore en question, tant qu'il peut encore avoir à trembler pour elle, il ne peut consacrer toutes ses forces à se servir de la vie, c'est-à-dire à en jouir. Mais comment en jouir ? En l'usant comme on brûle la chandelle qu'on emploie. On use de la vie et de soi-même en la consumant et en se consumant. Jouir de la vie, c'est la dévorer et la détruire. Eh bien, que faisons-nous ? Nous cherchons la jouissance de la vie. Et que faisait le monde religieux ? Il cherchait la vie. En quoi consiste la vraie vie, la vie bienheureuse, etc. Comment y parvenir ? Que doit faire l'homme et que doit-il être pour être un véritable vivant ? Quel devoir lui impose cette vocation ? Ces questions et d'autres pareilles indiquent que ceux qui les posent en sont encore à se chercher, à chercher leur vrai sens, le sens que leur vie doit avoir pour être vrai. Ce que je suis n'est qu'un peu d'ombre et d'écume. Ce que je serai sera mon vrai moi. Poursuivre ce moi, le préparer, le réaliser, telle est la lourde tâche des mortels. Ils ne meurent que pour ressusciter, ils ne vivent que pour mourir et pour trouver la vraie vie. Ce n'est que quand je suis sûr de moi et quand je ne me cherche plus que je suis vraiment ma propriété. Alors je me possède et c'est pourquoi je m'emploie et je jouis de moi. Mais tant que je crois, au contraire, avoir encore à découvrir mon vrai moi, tant que je pense devoir faire en sorte que celui qui vit en moi ne soit pas moi, mais soit le chrétien ou quelque autre moi spirituel, c'est-à-dire quelque fantôme, tel que l'homme, l'essence de l'homme, etc., il m'est à jamais interdit de jouir de moi. Il y a un abîme entre ces deux conceptions. D'après l'ancienne, je suis mon but. D'après la nouvelle, je suis mon point de départ. D'après l'une, je me cherche. D'après l'autre, je me possède et je fais de moi ce que je ferais de tout autre de mes propriétés. Je jouis de moi selon mon bon plaisir. Je ne tremble plus pour ma vie. Je la prodigue. La question désormais n'est plus de savoir comment conquérir la vie, mais comment la dépenser et en jouir. Il ne s'agit plus de faire fleurir en moi le vrai moi, mais de faire ma vendange et de consommer ma vie. Qu'est-ce que l'idéal, sinon le moi toujours cherché et jamais atteint ? Vous vous cherchez ? C'est donc que vous ne vous possédez pas encore. Vous vous demandez ce que vous devez être ? Vous ne l'êtes donc pas. Votre vie n'est qu'une longue et passionnée attente. Pendant des siècles, on a soupiré vers l'avenir et vécu d'espérance. C'est tout autre chose de vivre de puissance. Est-ce à cela seul que l'on dit pieux que s'adressent mes paroles ? Nullement, elles s'appliquent à tous ceux qui appartiennent à cette époque finissante et même à ces joyeux vivants. Pour eux aussi, un dimanche succède au jour ouvrable et les tracas de la vie sont suivis du rêve d'un monde meilleur, d'un bonheur universel, d'un idéal en un mot. Mais les philosophes au moins doivent, direz-vous, être opposés aux dévots. Eux ? Ont-ils jamais pensé à autre chose qu'à l'idéal, et ont-ils jamais eu en vue autre chose que le moi absolu ? Partout attente, aspiration, partout de lointaines chimères, de longs espoirs et rien de plus. Faites-moi le plaisir d'appeler ça du romantisme. Pour triompher de l'aspiration à la vie, la jouissance de la vie doit la vaincre sous sa double forme, écraser aussi bien la détresse spirituelle que la détresse temporelle, et exterminer à la fois la soif de l'idéal et la faim du pain quotidien. Celui qui doit user sa vie à la conserver ne peut en jouir, et celui qui la cherche ne l'a pas et ne peut pas non plus en jouir. Tous deux sont pauvres, mais bien heureux les pauvres. Les affamés de vraie vie n'ont plus aucun pouvoir sur leur vie présente qu'ils doivent consacrer à la conquête de la vraie vie et sacrifier à l'accomplissement de cette tâche et de ce devoir. La servitude de l'existence terrestre, tout entière subordonnée à l'existence céleste qu'ils attendent, est évidente chez les esprits religieux, qui escomptent une vie future et ne voient dans la vie ici-bas qu'un simple stage. Mais il serait très faux de croire, à moins de renoncement chez ceux qui ne sont en apparence le plus affranchis des dogmes. Comprenez donc que la vie vraie a un sens bien plus étendu que votre vie céleste. Et pour en venir immédiatement à la conception libérale de la vie vraie n'est-elle pas humaine, et vraiment humaine? Faut-il se donner tant de peine pour parvenir à cette vie humaine, où le premier venu la vit-il dès l'instant où il commence à respirer? Est-elle pour chacun le présent, ce qu'il a et ce qu'il est actuellement, ou doit-il tendre comme à une vie future qu'il ne possédera qu'après s'être lavé de la souillure de l'égoïsme? À ce compte, la vie n'est que la conquête de la vie. On ne vit que pour faire vivre en soi l'essence de l'homme et pour l'amour de cette essence. On n'a sa vie que pour en créer une véritable vie, purifié de tout égoïsme. Et voilà pourquoi on hésite à l'employer à sa guise, elle a son emploi, son but, et on ne peut l'en détourner. Bref, on a une vocation, un devoir. On a par sa vie à réaliser, à accomplir quelque chose. Ce quelque chose, en vue duquel la vie n'est qu'un moyen et un instrument, a plus d'importance qu'elle, et on la lui doit. On a un Dieu qui réclame des victimes vivantes. Les sacrifices humains n'ont perdu à la longue que leur forme barbare, ils n'ont pas disparu. À chaque instant, des criminels sont offerts en holocauste à la justice. Et nous, pauvres pécheurs, nous nous immolons nous-mêmes sur l'autel de l'essence humaine, de l'homme, de l'humanité, des idoles ou des dieux, quel que soit le nom qu'on leur donne. Ayant un créancier auquel nous devons notre vie, nous n'avons aucun droit de la dépenser pour nous. Les tendances conservatrices du christianisme ne permettent pas aux chrétiens de songer à la mort autrement qu'avec l'intention de lui arracher son aiguillon et de se survivre bel et bien. Le chrétien consent à ce que tout arrive, il prend ses maux en patience, du moment qu'il peut, le juif. Comptez qu'il se rattrapera au ciel et y touchera de gros intérêts. Il ne lui est pas permis de se tuer, il ne peut que se conserver et travailler à se préparer une place pour plus tard. La perpétuité, le triomphe sur la mort, voilà ce qui lui est à cœur. La dernière ennemie qui sera vaincue, c'est la mort. Jésus-Christ a brisé la puissance de la mort et a mis en lumière par l'Évangile la vie et l'incorruptibilité. Incorruptibilité, stabilité. L'homme moral veut le bien, le juste, etc. S'il use des moyens qui conduisent à ce but et y conduisent réellement, ces moyens ne sont pas pour cela les siens, mais sont ceux du bien, du juste, etc. Ces moyens ne sont jamais immoraux, car le but auquel ils permettent d'atteindre est bon. La fin justifie les moyens. Cette maxime passe pour jésuitique, bien qu'elle soit strictement morale. L'homme moral est le serviteur d'un but ou d'une idée. Il se fait l'instrument du bien comme l'homme pieux se fait gloire d'être l'ouvrier, l'outil de Dieu. Les commandements de la morale ordonnent comme étant bien d'attendre l'heure de la mort. Se donner à soi-même la mort est immoral et mauvais. Le suicidé n'a aucun pardon à attendre devant le tribunal de la moralité. L'homme religieux le condamnait parce que ce n'est pas toi qui t'es donné la vie, c'est Dieu. Et lui seul peut te la reprendre, comme si à ce compte, ce n'était pas aussi bien Dieu qui me la reprend lorsque je me tue que lorsqu'une tuile ou une balle ennemie me casse la tête. C'est lui aussi qui a éveillé en moi la résolution de mourir. L'homme moral, de son côté, le condamne parce que je dois ma vie à la patrie, etc. Et que je ne sais pas si de ma vie n'eût pas pu résulter encore quelque bien. Si je me tue, le bien perd naturellement en moi un instrument, comme le Seigneur compte, moi mort, un ouvrier de moins à sa vigne. Si je fus immoral, le bien bénéficiera de mon amélioration. Si je fus impie, Dieu se réjouira de ma contrition. Le suicide est aussi criminel envers Dieu qu'envers la vertu. Toi qui t'ôtes la vie, tu oublies Dieu si tu étais religieux, et tu oublies le devoir si tu étais moral. La mort d'Emilia Galotti est-elle justifiable au point de vue de la moralité? On admet que cette mort est un suicide, et le fait est que c'en est bien un. On s'est mis Martel en tête pour en décider. Être assez enragé de chasteté, ce bien moral, pour lui sacrifier sa vie est certainement moral, mais en revanche, ne pas avoir assez de confiance en soi-même pour oser affronter les pièges de la chair est immoral. Le conflit magique qui fait le fond de tout drame moral repose généralement sur une antinomie de ce genre. Il faut penser et sentir moralement pour être capable de s'y intéresser. Tout ce que l'on peut dire au nom de la morale et de la piété à propos du suicide n'est pas moins vrai si l'on en appelle à l'humanité. Attendu que l'on doit également sa vie à l'homme, à l'humanité, au genre humain. C'est seulement quand je ne me reconnais d'obligation envers personne que la conservation de ma vie est mon affaire. Un saut du haut de ce point me fait libre. Nous devons, à l'être quel qu'il soit que nous avons à faire, vivre en nous non seulement de conserver la vie, dont nous sommes les dépositaires, mais en outre de ne pas employer cette vie à notre guise, de la régler sur lui et de la lui conformer. Tout en moi, penser, sentir, vouloir, tous mes actes, tous mes efforts sont à lui. L'idée que nous avons de cet être détermine ce qui lui est conforme. Mais cette idée, de combien de façons l'a-t-on conçue? Et cet être, sous combien de formes se l'est-on représenté? Le mahométan croit que l'être suprême exige de lui une chose et le chrétien croit qu'il en réclame une toute autre. Quel aspect différent la vie doit leur présenter? Mais tous sont du moins unanimes à croire que c'est à l'être suprême à diriger leur vie. Je ne m'arrêterai pas plus longtemps aux dévots qui ont en Dieu un guide et en sa parole un fil conducteur. Je ne les ai cités que pour mémoire. Ils appartiennent à une faune éteinte et leur immobilité est celle des pétrifications. Ce ne sont plus aujourd'hui les pieux mais bien les libéraux qui ont le verbe haut, et la piété elle-même ne peut plus se dispenser de rougir quelque peu ses joues blêmes de phare libéral. Les libéraux n'honorent point en Dieu leur guide et ne suspendent point leur vie au fil conducteur de la parole divine. Ils se guident sur l'homme, et ce n'est pas à une vie divine, mais à une vie humaine qu'ils aspirent. L'être suprême du libéral est l'homme. L'homme est son mentor et l'humanité est son catéchisme. Dieu est esprit, mais l'homme est l'esprit parfait. Le résultat final de la longue chasse à l'esprit, à laquelle on se livra en sondant les profondeurs de la divinité, c'est-à-dire les profondeurs de l'esprit. Chacun de tes traits doit être humain. Toi-même, tu dois l'être de la nuque au talon, intérieurement comme extérieurement, car l'humanité est ta vocation. Vocation, destination, devoir. Ce qu'on peut être, on l'est. La défaveur des circonstances pourra empêcher celui qui naquit poète d'être le premier de son temps et ne pas lui permettre de produire des chefs-d'œuvre en lui interdisant des longues mais indispensables études préliminaires. Mais il fera des vers, qu'il soit valet de ferme ou qu'il ait la chance de vivre à la cour de Weimar. Le musicien fera de la musique, dût-il, faute d'instrument, soufflé dans un roseau. Une tête philosophique roulera des problèmes qu'elle orne les épaules d'un philosophe d'université ou d'un philosophe de village. Enfin, l'imbécile, qui peut être en même temps un malin, les deux vont très bien ensemble, quiconque a fréquenté les écoles en retrouvera dans sa mémoire plusieurs exemples. s'il passe en revue ses anciens condisciples. L'imbécile, dis-je, restera toujours un imbécile, soit qu'on l'ait dressé et exercé à être chef de bureau ou à cirer les bottes du dit chef. Les cerveaux obtus forment la classe humaine incontestablement la plus nombreuse. Mais pourquoi n'y aura-t-il pas dans l'espèce humaine les mêmes différences qu'il est impossible de méconnaître dans la première espèce animale venue? On trouve partout des êtres plus ou moins bien doués. Peu, cependant, sont assez obtus pour qu'on ne puisse leur insuffler quelques idées. Aussi considère-t-on ordinairement tous les hommes comme capables d'avoir de la religion. Ils sont de plus susceptibles d'être, dans une certaine mesure, dressés à d'autres idées, et on peut leur donner, par exemple, quelques compréhensions musicales, une teinte de philosophie même. Ici, le sacerdoce se lie à la religion, à la moralité, à la culture, à la science, etc. Et les communistes, par exemple, veulent, par leur école populaire, rendre tout accessible à tous. On soutient ordinairement que la grande masse ne pourrait se passer de religion. Les communistes étendent cette affirmation et disent que non seulement la grande masse, mais tous sont appelés à tout. Il ne suffit pas d'avoir dressé la masse à la religion. Il faut à présent la pétrir de tout ce qui est humain. Et le dressage devient toujours plus universel et plus étendu. Pauvres êtres, qui pourriez être si heureux s'il vous était permis de gambader à votre guise. Il faut que vous dansiez au son de la sorinette, des pédagogues et des montreurs d'ours, et que vous appreniez à faire des tours dont vous n'eussiez jamais de la vie senti le besoin. Cela ne finit-il pas par vous révolter, de voir qu'on vous prend toujours pour autre chose que ce que vous voulez paraître? Non, vous répétez mécaniquement la question qu'on vous a soufflée. À quoi suis-je appelé? Quel est mon devoir? Et il suffit que vous posiez la question pour qu'aussitôt la réponse s'impose à vous. Vous vous ordonnez ce que vous devez faire, vous vous tracez une vocation, ou vous vous donnez les ordres et vous vous imposez la vocation que l'esprit a d'avance prescrit. Par rapport à la volonté, cela peut s'énoncer ainsi. Je veux ce que je dois. Un homme n'est appelé à rien. Il n'a pas plus de devoirs et de vocations que n'en ont une plante ou un animal. La fleur qui s'épanouit n'obéit pas à une vocation, mais elle s'efforce de jouir du monde et de le consommer tant qu'elle peut. C'est-à-dire qu'elle puise autant de suc de la terre, autant d'air de l'éther et autant de lumière du soleil qu'elle en peut absorber et contenir. L'oiseau ne vit pas pour remplir une vocation, mais il emploie ses forces le mieux possible. Il attrape des insectes et chante à cœur joie. Les forces de la fleur et de l'oiseau sont faibles, comparées à celles d'un homme, et l'homme qui bande ses forces pour conquérir le monde l'étreint bien plus puissamment que ne le font la fleur et l'oiseau. Il n'a pas de vocation ou de mission à remplir, mais il a des forces, et ses forces se déploient, se manifestent, où elles sont parce que, pour elles, être, c'est se manifester, et qu'elles ne peuvent pas plus rester inactives que ne le peut la vie, qui, si elle s'arrêtait, une seconde ne serait plus la vie. On pourrait donc crier à l'homme « Emploie ta force !» Mais cet impératif impliquerait encore une idée de devoir, là où il n'y en a pas l'ombre. Et d'ailleurs, à quoi bon ce conseil? Chacun le suit et agit, sans commencer par voir dans l'action un devoir. Chacun déploie à chaque instant tout ce qu'il a de puissance. On dit bien d'un vaincu qu'il aurait dû déployer plus de force, mais on oublie que si, au moment de succomber, il avait eu le pouvoir de déployer ses forces, corporelles par exemple, il l'eût fait. Il n'a eu peut-être qu'une minute de découragement, mais ce fut là, en somme, une minute d'impuissance. Les forces peuvent évidemment s'aiguiser et se multiplier, particulièrement par les bravades de l'ennemi ou par des exhortations amies. Mais là où elles restent sans effet, on peut être certain qu'elles manquaient. On peut faire jaillir des étincelles d'une pierre, mais sans le choc, pas d'étincelles. De même, l'homme a besoin d'une impulsion. Attendu donc que les forces se montrent toujours d'elles-mêmes actives, l'ordre de les mettre en œuvre serait superflu et vide de sens. Employer ses forces n'est pas la vocation et le devoir de l'homme, mais son fait perpétuellement réel et actuel. Force n'est qu'un mot plus simple pour dire manifestation de force. Cette rose est, depuis qu'elle existe, une véritable rose, et ce rossignol est et a toujours été un véritable rossignol. De même, moi, ce n'est pas seulement quand je remplis ma mission et me conforme à ma destination que je suis un véritable homme. J'en suis un, j'en ai toujours été, et ne saurais cesser d'en être un. Mon premier vagissement fut le signe de vie d'un véritable homme. Les combats de ma vie sont les manifestations d'une force vraiment humaine, et mon dernier soupir sera le dernier effort de l'homme. Le véritable homme n'est pas dans l'avenir, il n'est pas un but, un idéal vers lequel on aspire, mais il est ici, dans le présent, il existe réellement. Quel que je sois, quoi que je sois, joyeux ou souffrant, enfant ou vieillard, dans la confiance ou dans le doute, dans le sommeil ou la veille, c'est moi, je suis le véritable homme. Mais si je suis l'homme, si j'ai réellement trouvé en moi celui dont l'humanité religieuse faisait un but lointain, tout ce qui est vraiment humain est par là même ma propriété. Tout ce qu'on attribuait à l'idée d'humanité m'appartient. Cette liberté de commerce, par exemple, que l'humanité est encore à espérer et que l'on remet à un avenir doré comme un rêve enchanté, je l'emporte comme ma propriété et je la pratique provisoirement sous la forme de la contrebande. Peu de contrebandiers, j'en conviens, pourraient interpréter ainsi leur conduite, mais l'instinct de l'égoïsme suppléé à la conscience qui leur fait défaut. J'ai montré plus haut qu'il en va de même de la liberté de la presse. Tout est à moi, aussi ressaisirai-je ce qui veut se soustraire à moi. Mais avant tout, je me ressaisis, si une servitude quelconque m'a fait échapper à moi-même. Mais cela non plus n'est pas ma vocation, c'est ma conduite naturelle. En somme, il y a donc une grande différence entre me prendre pour point de départ ou pour point d'arrivée. Si je suis mon but, je ne me possède pas. Je suis encore étranger à moi, je suis mon essence, ma véritable nature intime. Et cette essence vraie prendra comme un fantôme mille noms et mille formes diverses pour se jouer de moi. Si je ne suis pas moi, c'est un autre. Dieu, le véritable homme, le vrai dévot, l'homme raisonnable, l'homme libre, etc. Qui est moi? Qui est mon moi? Encore bien loin de moi, je fais de moi deux parts, dont l'une, celle qui n'est pas atteinte et que j'ai à accomplir, est la vraie. L'autre, la non-vraie, c'est-à-dire la non-spirituelle, doit être sacrifiée. Ce qu'il y a de vrai en moi, c'est-à-dire l'esprit, doit être tout l'homme. Cela se traduit ainsi. L'esprit est l'essentiel chez l'homme, ou l'homme n'est homme que par l'esprit. On se précipite avidement pour saisir l'esprit, comme si on allait du même coup se saisir, et dans cette chasse éperdue au moi, on perd de vue le moi que l'on est. Dans cette poursuite furieuse d'un moi qu'on n'atteint jamais, on fait fi de la règle des sages qui conseille de prendre les hommes comme ils sont. On préfère les prendre comme ils devraient être, et en conséquence, on galope sans trêve sur la piste de son moi tel qu'il devrait être. Et on s'efforce de rendre tous les hommes éperdument justes, estimables, moraux ou raisonnables. Oui, si les hommes étaient comme ils devraient et comme ils pourraient être, si tous les hommes étaient raisonnables, s'ils s'aimaient les uns les autres comme des frères, la vie serait un paradis. Eh, mais les hommes sont comme ils doivent être et comme ils peuvent être. Que doivent-ils être? Ce qu'ils peuvent être et rien de plus. Et que peuvent-ils être? Rien de plus que ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire que ce qu'ils ont le pouvoir ou la force d'être. Mais cela, ils le sont réellement. Attendu que ce qu'ils ne sont pas, ils ne sont pas capables de l'être. Car être capable de faire ou d'être veut dire faire ou être réellement. On n'est pas capable d'être ce qu'on n'est pas. On n'est pas capable de faire ce qu'on ne fait pas. Cet homme que la cataracte aveugle pourrait-il voir? Certainement, il suffirait qu'il fût opéré avec succès. mais pour le moment, il ne peut pas voir, parce qu'il ne voit pas. Possibilité et réalité sont inséparables. On ne peut pas faire ce qu'on ne fait pas, comme on ne fait pas ce qu'on ne peut pas faire. La singularité de cette proposition disparaît, si l'on veut bien réfléchir, que les mots « il est possible que », etc., ne signifient au fond presque jamais autre chose que « je puis imaginer que », etc. Par exemple, « il est possible que tous les hommes vivent raisonnablement » veut dire « je puis m'imaginer que », etc. Ma pensée ne peut faire, et par conséquent ne fait pas, que les hommes vivent raisonnablement. C'est là une chose qui ne dépend pas de moi, mais d'eux. La raison de tous les hommes n'est donc pour moi que pensable. Elle ne m'est qu'intelligible. Mais comme telle, elle est en fait une réalité. Si cette réalité prend le nom de possibilité, ce n'est que par rapport à ce que je ne puis pas faire, c'est-à-dire à la raison des gens. À supposer que cela dépendît de toi, tous les hommes pourraient être raisonnables, car tu n'y vois aucun inconvénient, et si loin même que s'étende ta pensée, tu ne découvres peut-être rien qui s'y oppose, il en résulte qu'aucun obstacle ne s'oppose à la chose dans ta pensée. Elle est pensable. Mais les hommes ne sont pas tous raisonnables, c'est donc sans doute qu'ils ne peuvent pas l'être. Lorsqu'une chose que l'on s'imaginait n'offrir aucune difficulté, être très possible, etc., n'est pas ou n'arrive pas, on peut être certain qu'elle s'est heurtée à un obstacle et qu'elle est impossible. Notre époque a son art, sa science, etc. Il se peut que son art soit exécrable, mais pouvons-nous dans ce cas dire, nous méritions d'en avoir un meilleur, et nous aurions pu en avoir un meilleur si nous l'avions voulu. Nous avons tout juste autant d'art que nous pouvons en avoir. Notre art actuel est actuellement l'unique possible, et c'est pourquoi il est notre art réel. Réduisez encore le sens du mot possible, jusqu'à ce qu'il ne signifie finalement plus que futur, et il sera encore l'équivalent de réel. Quand on dit, par exemple, « il est possible que le soleil se lève demain », cela ne signifie rien de plus que, par rapport à aujourd'hui, demain est l'avenir réel, car il est à peine besoin d'exprimer qu'un avenir n'est réellement à venir que s'il n'a pas encore paru. À quoi bon, dites-vous, cette dissection microscopique d'un mot? Ah, si ce n'était pas derrière lui que se tient embusquée l'erreur qui a eu, depuis des siècles, le plus de conséquences, si ce petit mot « possible » n'était pas dans la cervelle des hommes le coin où se donnent rendez-vous tous les fantômes qui la hantent, nous ne nous serions guère inquiétés de lui. La pensée, nous l'avons montré plus haut, règne sur le monde possédé. Revenons à la possibilité qui est un de ses lieutenants. Possible, disions-nous, n'est rien d'autre que pensable, intelligible, et d'innombrables victimes ont été sacrifiées à ce terrible intelligible. Il est pensable que les hommes puissent être raisonnables, il est pensable qu'ils puissent reconnaître le Christ, pensable qu'ils puissent être inspirés par le bien et être moraux, pensable qu'ils puissent se réfugier dans le giron de l'Église, qu'ils puissent ne rien faire, ne rien penser et ne rien dire qui mettent l'État en péril. Il est pensable encore qu'ils puissent être des sujets obéissants. Mais voyez où cela va nous mener. Tout cela étant pensable est possible, et cela étant possible aux hommes, c'est ici quelle erreur, parce que ce « mais intelligible », c'est possible aux hommes. Ils doivent l'être ou doivent le faire. C'est leur vocation. Et enfin, il ne faut rien voir dans les hommes que leur vocation. Il faut les regarder comme appelés à quelque chose et les tenir non pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils doivent être. Autre conséquence. Ce n'est pas l'individu qui est l'homme. L'homme est une pensée, un idéal. L'individu n'est pas à l'homme ce que l'enfance est à l'âge mûr, mais ce qu'un point à la craie est au point mathématique, ce qu'une créature finie est au créateur infini, ou en termes plus modernes, ce que l'exemplaire est à l'espèce. D'où le culte de l'humanité éternelle, immortelle, à la gloire de laquelle l'individu doit être prêt à tout sacrifier, convaincu que ce serait pour lui un éternel honneur d'avoir fait quelque chose pour l'esprit de l'humanité. Il en résulte que ceux qui pensent gouvernent le monde tant que dure l'époque des prêtres et des pédagogues. Ce qu'ils pensent est possible, et ce qui est possible doit être réalisé. Ils pensent un idéal humain qui n'a provisoirement de réalité que dans leur pensée, mais ils pensent ensuite la possibilité de réaliser cet idéal, et il est incontestable que cette réalisation est réellement pensable. C'est une idée. Il se peut qu'un Krummacher pense que toi et moi sommes encore capables de devenir bons chrétiens. Mais s'il s'avisait de nous travailler dans ce sens, nous lui ferions bientôt sentir que notre christianisation, encore que pensable, est cependant impossible. Et s'il s'obstinait à nous assassiner de ses pensées et de sa bonne doctrine, dont nous n'avons que faire, il ne tarderait pas à se convaincre que nous n'avons que faire de devenir ce qu'il ne nous plaît pas d'être. Et le raisonnement que nous résumions tantôt se poursuit, laissant derrière lui dévots et bigots. Si tous les hommes étaient raisonnables, si tous pratiquaient la justice, si tous prenaient pour guide la charité, etc., raison, justice, charité leur sont présentées comme la vocation de l'homme, comme le but où doivent tendre ses efforts. Et que signifie être raisonnable ? Est-ce se raisonner soi-même, se comprendre ? Non, la raison est un gros livre bourré d'articles de loi, tous braqués contre l'égoïsme. L'histoire n'a été jusqu'à présent que l'histoire de l'homme spirituel. Après l'âge des sens a commencé l'histoire proprement dite, c'est-à-dire l'âge de l'intelligence, du spirituel, du suprasensible, de l'idéal, du non-sens. L'homme se met alors à vouloir être quelque chose. Être quoi ? Bon, beau, vrai, ou plus exactement, moral, pieux, noble, etc. Il veut faire de lui-même un véritable homme. L'homme est son but, son impératif, son devoir, sa destination, sa vocation, son idéal. L'homme est pour lui un futur, un au-delà. Et s'il devient ce qu'il rêve, ce ne peut être que grâce à quelque chose qui s'appellera véracité, bonté, moralité, etc. Dès lors, il regarde de travers quiconque ne rend pas hommage au même quelque chose, ne suit pas la même morale et n'a pas la même foi. Il persécute les dissidents, les hérétiques, les sectes, etc. Le mouton ne s'efforce pas de devenir un vrai mouton, ni le chien un vrai chien. Aucun animal ne prend son être pour un devoir, c'est-à-dire pour une idée qu'il doit réaliser. Il se réalise par là même qu'il vit sa vie, c'est-à-dire qu'il s'use et qu'il se détruit. Il ne demande pas à devenir quelque chose d'autre que ce qu'il est. Ce n'est pas que je veuille vous conseiller de ressembler aux animaux. Je ne le puis d'ailleurs pas, car vous exhorter à devenir des animaux serait vous proposer de nouveau une tâche, un idéal. L'abeille peut en remontrer en application. Cela équivaudrait à souhaiter aux animaux de devenir hommes. Votre nature est, une fois pour toutes, humaine. Vous êtes des natures humaines, c'est-à-dire des hommes, et c'est justement parce que vous en êtes que vous n'avez plus besoin d'en devenir. Certains animaux aussi peuvent être dressés, et un animal dressé exécute toutes sortes d'exercices qui ne lui sont pas naturels. Mais si le dressage rend le chien plus utile ou plus agréable pour nous, il n'en tire, lui, aucun profit. Une fois chien savant, il ne vaut pas plus pour lui-même qu'un chien naturel. On s'efforce, et la mode n'en est pas nouvelle, de faire des hommes des êtres moraux, raisonnables, pieux, humains, etc., c'est-à-dire de les dresser. Mais ces tentatives se brisent contre l'incoercible individualité de l'égoïste. Ceux qu'on a soumis à cette discipline n'atteignent jamais leur idéal. Ils ne professent qu'en parole les sublimes doctrines et se bornent à faire des professions de foi. Pratiquement, ils doivent bien confesser qu'ils sont tous des pécheurs et qu'ils restent loin en dessous de leur idéal. Ils sont de faibles hommes et ils se consolent en ayant conscience de la faiblesse humaine. Il en va tout autrement si tu ne poursuis pas un idéal comme ta destination, mais que tu te consumes comme le temps consume tout. La destruction n'est pas ta destination, car elle est le présent. Il est parfaitement vrai que la culture et la religiosité des hommes les ont libérés, mais elles ne les ont délivrés d'un maître que pour les soumettre à un autre. La religion m'a appris à réfréner mes désirs, les artifices que la science met à mon service me permettent de vaincre la résistance du monde, et je ne reconnais même plus en aucun homme mon maître. Je ne suis le serviteur de personne. Seulement, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Plus je suis affranchi des impulsions déraisonnables de l'instinct, et plus docilement j'obéis à la maîtresse. Raison. J'ai gagné la liberté spirituelle, la liberté de l'esprit, et je suis devenu par là même l'esclave de l'esprit. L'esprit me commande, la raison me guide. Ils me conduisent et me gouvernent, et les raisonnables, les serviteurs de l'esprit, sont leurs ministres. Mais si je ne suis pas chair, je ne suis pas non plus esprit. La liberté de l'esprit est ma servitude, parce que je suis plus que chair et plus qu'esprit. La culture m'a rendu puissant. Cela ne souffre non plus aucun doute. Elle m'a donné un pouvoir sur tout ce qui est force, aussi bien sur les impulsions de ma nature que sur les assauts et les violences du monde extérieur. Je sais que rien ne m'oblige à me laisser contraindre par mes désirs, mes appétits et mes passions, et la culture m'a donné la force de les vaincre. Je suis leur maître. De même, je suis, grâce aux sciences et aux arts, le maître du monde rebelle. La terre et la mer sont sous mes ordres, et les étoiles mêmes doivent me rendre des comptes. C'est l'esprit qui m'a donné cet empire. Mais sur l'esprit lui-même, je ne puis rien. La religion, culture, m'a bien enseigné le moyen de devenir le vainqueur du monde, mais elle ne m'a pas appris à vaincre Dieu, car Dieu est l'esprit. Cet esprit sur lequel je n'ai aucun pouvoir peut prendre les formes les plus diverses. Il peut s'appeler Dieu ou s'appeler esprit du peuple, état, famille, raison, ou encore liberté, humanité, homme. J'accepte avec reconnaissance ce que les siècles de culture m'ont acquis. Je ne veux rien rejeter ou abandonner. Je n'ai pas vécu en vain. Ils ont découvert que j'ai un pouvoir sur ma nature et que je ne suis pas forcé d'être l'esclave de mes appétits. Et c'est là un résultat appréciable que je ne dois pas laisser se perdre. Ils ont découvert que je puis, grâce aux moyens que me fournit la culture, dompter le monde. Et cette découverte fut achetée trop cher pour que je puisse l'oublier. Mais je veux plus encore. On se demande ce que l'homme peut devenir, ce qu'il peut accomplir et quel bien il peut acquérir, et de celui de ses biens qu'on juge plus grand, on me fait une vocation, comme si tout m'était possible. Lorsqu'on voit quelqu'un que consume un désir, une passion, etc., par exemple l'esprit de lucre, la jalousie, etc., on se prend à souhaiter de le délivrer de cette obsession et de l'aider à se vaincre. Nous voulons faire de lui un homme. Ce serait fort beau. Si une autre possession ne prenait pas immédiatement la place que vient de vider l'ancienne. Sitôt la cupidité exorcisée, on jette sa victime dans les bras de la piété, de l'humanité ou de quelque autre principe, et on lui fournit de nouveau un point d'appui moral fixe. Cet échange d'un point d'appui inférieur contre un point d'appui élevé s'exprime en disant « Il ne faut pas tourner ses regards vers ce qui passe, mais vers ce qui ne passe pas, non vers le temporel, mais vers l'éternel, l'absolu, le divin, le pur humain, le spirituel. » On s'aperçut bientôt qu'il n'est pas indifférent de suspendre son cœur n'importe où et de s'éprendre de n'importe quoi. On reconnut l'importance de l'objet. Un objet élevé au-dessus de la particularité des choses est l'essence des choses. Leur essence, en effet, est seulement ce qu'il y a de pensable en elle et n'existe que pour l'homme pensant. Ne dirige donc plus tes sens sur la chose, mais dirige tes pensées sur l'essence. Bienheureux ceux qui, ne voyant pas, croient. Autrement dit, bienheureux les pensants, car eux seuls ont affaire à l'invisible, et y croient. Mais un objet de pensée qui passa pendant des siècles pour un critérium finit tôt ou tard par ne plus valoir la peine d'en parler. On s'en rendit compte, mais on ne cessa jamais d'accorder à l'objet une importance en soi et une valeur absolue, comme si l'essentiel n'était pas, pour l'enfant, sa poupée, et pour le Turc, le Coran. Tant que l'important pour moi n'est pas uniquement moi, peu importe l'objet que je tiens pour essentiel. Seule la petitesse ou la grandeur de mon crime envers lui a une valeur. La profondeur de mon attachement et de mon dévouement témoigne de ma servitude, et la profondeur de mon péché donne la mesure de mon individualité. Mais il faut finalement savoir tout chasser de sa pensée si l'on veut pouvoir s'endormir. Rien ne doit nous occuper dont nous ne nous occupons pas. L'ambitieux ne peut se défaire de ses projets d'ambition, et celui qui craint Dieu ne peut détacher sa pensée de Dieu. Manie et obsession sont jumelles. Réaliser son essence ou vivre conformément à sa notion est ce que le croyant en Dieu appelle être pieux et ce qu'un croyant en l'homme appelle vivre humainement. Ce but, seul l'homme sensuel ou le pécheur peut se le proposer, tant qu'il a encore le choix redoutable, entre la joie des sens et la paix de l'âme, tant qu'il est un pauvre pécheur. Le chrétien n'est qu'un homme sensuel qui, connaissant la sainteté et ayant conscience de la violer, se regarde comme un pauvre pécheur. La sensualité conçue comme iniquité fait le fond de la conscience chrétienne et le chrétien même. Nos modernes ne disent plus le péché et l'iniquité, mais l'égoïsme, l'amour de soi, l'intérêt personnel, etc. Entre leurs mains, le diable a changé de peau et est devenu l'inhumain, ou l'égoïste. Mais cela les empêche-t-il d'être chrétiens? Le vieux dualisme du bien et du mal ne reste-t-il pas debout? N'y a-t-il plus au-dessus de nous un juge, l'homme? N'est-il plus de vocation? Et faire de soi un homme, comment appelez-vous ça? Je le sais, vous ne dites plus vocation, vous dites tâche ou encore devoir, et ce changement de nom est très juste, car l'homme n'est pas comme Dieu une personne qui peut appeler vocare. Mais le nom mis à part, cela ne revient-il pas exactement au même? Chacun de nous est en rapport avec les objets et se comporte envers eux différemment. Prenons comme exemple ce livre avec lequel des millions d'hommes ont été en rapport depuis bientôt 20 siècles, la Bible. Qu'a-t-elle été pour chacun d'eux? Ce qu'il en a fait est rien d'autre. Elle n'est rien pour celui qui n'en fait rien. Pour celui qui en use comme d'une amulette, elle a uniquement la valeur et la signification d'un charme. Pour l'enfant qui joue avec elle, elle est un jouet, etc. Mais le christianisme prétend que la Bible doit être pour tous la même chose, c'est-à-dire ce qu'elle est pour lui, les livres saints ou la Sainte Écriture. Cela revient à prétendre que le point de vue du chrétien doit être celui des autres hommes et que personne ne peut avoir avec l'objet en question d'autre rapport que le chrétien. Le rapport perd ainsi toute valeur individuelle. Une certaine opinion se substitue à la mienne, devient définitive et s'implante comme la vraie et la seule vraie. Avec la liberté de faire de la Bible ce qu'il me plaît, toute liberté d'agir en général se voit entravée et est remplacée par la contrainte d'une façon de voir et de juger obligatoire. Celui qui émet le jugement que la Bible est une longue erreur de l'humanité porte un jugement criminel. En réalité, l'enfant qui la met en pièces ou qui joue avec elle, et l'Inca Atahualpa qui y applique l'oreille, et la rejette avec une moue de dédain, parce qu'elle reste muette, émette sur la Bible un jugement aussi légitime que le prêtre qui prise en elle la parole de Dieu, ou que la critique qui la traite comme un monument de la civilisation hébraïque. Car nous manions les choses selon notre bon plaisir et notre caprice. Nous en usons comme il nous plaît, ou plus exactement, comme nous pouvons. D'où vient que les prêtres jettent de hauts cris lorsqu'ils voient Hegel et les théologiens spéculatifs extraire de la Bible des pensées spéculatives, de ce qu'eux-mêmes traitent ces textes à leur guise et en font un usage arbitraire. Rien ne plaît tant aux philosophes que de dénicher en tout une idée, et rien ne va aux dévots comme de mettre tout en œuvre, la vénération de la Bible par exemple, pour se faire de Dieu un ami. Nous faisons tous preuve du même arbitraire dans notre commerce avec les choses, et nous les traitons comme il nous plaît. Aussi ne rencontrons-nous nulle part une aussi pesante tyrannie, autant de violences terribles et d'oppressions stupides que dans le domaine de notre propre arbitraire. Mais si nous agissons à notre guise en faisant ceci ou cela des objets sacrés, comment pourrions-nous reprocher à la prêtraille d'agir elle aussi à sa guise et lui en vouloir de ce qu'elle nous juge à sa façon, c'est-à-dire digne du bûcher ou d'un autre châtiment, de la censure par exemple? Ce qu'un homme est, les choses le sont à ses yeux. Le monde te voit du même œil dont tu le contemples, d'où immédiatement ce sage conseil. Tu ne dois le regarder que d'un œil juste et impartial, comme si l'enfant ne regardait pas la Bible avec justice et impartialité quand il s'en fait un jouet. Feuerbach, entre autres, nous donne ce prudent avis. Voir les choses justement, c'est tout bonnement en faire ce qu'on veut. Par chose, j'entends ici tous les objets en général. Dieu, nos confrères en humanité, une maîtresse, un livre, un animal, etc. Ce qu'il faut mettre en première ligne, ce n'est pas les choses et leur aspect, mais moi et ma volonté. On veut des choses extraire des pensées, on veut découvrir de la raison dans le monde, on veut y trouver de la sainteté. Il en résulte que tout cela, on le trouve. Cherchez et vous trouverez. Ce que je veux chercher, c'est moi qui le détermine. Si je veux chercher dans la Bible matière à édification, je trouverai. Si je veux la lire et l'examiner à fond, il en résultera pour moi une connaissance et une critique profonde d'après mes forces.